Chapitre 120. Ô mes chers enfants, votre lettre m'est bien parvenue. La nouvelle qu'elle m'apporte m'a rempli d'une joie telle que je ne saurais la décrire, ni en parole, ni par écrit. Ainsi, grâce à Dieu, le pouvoir du royaume de Dieu a formé des enfants qui, dès leur plus jeune âge, souhaitent vivement recevoir une éducation bahaï, afin de pouvoir, dès l'enfance, servir l'humanité. Mon souhait et mon désir les plus ardents, c'est que vous, qui êtes mes enfants, soyez éduqués conformément aux enseignements de Baha'u'llah et que vous receviez une formation bahaï. Que chacun d'entre vous devienne une lampe allumée dans le monde des hommes, qu'il se consacre au service de toute l'humanité, abandonnant ses loisirs et son confort, afin qu'il devienne source de quiétude pour le monde de la création. Tel est l'espoir que je formule pour vous, et j'ai confiance que vous deviendrez la cause de ma joie et de mon allégresse dans le royaume de Dieu. Chapitre 121. Ô toi qui n'as que peu d'années, mais de nombreux dons d'intelligence. Combien d'enfants, malgré leur jeune âge, ont un jugement mûr et sain? Et à l'inverse, combien de personnes âgées sont ignorantes et ont l'esprit confus? C'est qu'en effet la croissance et le développement dépendent de nos pouvoirs de compréhension et de raisonnement, et non de notre âge. Bien que tu sois encore à l'âge de l'enfance, tu as pourtant reconnu ton Seigneur, alors que des multitudes de femmes le tiennent dans l'oubli, sont écartées de son céleste royaume et privées de ses bienfaits. Rends grâce à ton Seigneur de ce merveilleux don qu'il t'a octroyé. Je prie Dieu de guérir ta mère, qui est honoré dans le royaume des cieux. Chapitre 122. Je voudrais répondre à ta question concernant l'éducation des enfants. Il t'appartient de les nourrir aux mamelles de l'amour de Dieu et de les encourager vers les choses de l'esprit, afin qu'ils tournent leur visage vers Dieu, que leur attitude soit conforme aux règles de bonne conduite et que leur réputation soit sans égale. Qu'ils fassent leur toutes les grâces et les louables qualités de l'humanité, qu'ils acquièrent une solide connaissance des diverses branches du savoir, afin que, dès la prime enfance, ils deviennent des êtres spirituels, des habitants du royaume, épris des suaves brises de sainteté, et qu'ils reçoivent une éducation religieuse, spirituelle, celle qui procède du céleste empire. En vérité, je prierai à Dieu de leur accorder la réussite dans leur entreprise. Chapitre 123. Ô toi qui poses ton regard sur le royaume de Dieu, ta lettre m'est parvenue, et je note que tu as entrepris d'enseigner les enfants des croyants, que ces tendres petits ont appris les paroles cachées, les prières, et ce que cela signifie être bahaï. L'instruction dispensée à ces enfants, c'est comme le labeur d'un jardinier dévoué, qui soigne ces jeunes plantes dans les prés fleuris du très glorieux. Il ne fait aucun doute que son action produira les résultats souhaités. Ceci est vrai, en particulier de l'instruction relative aux obligations et au comportement des bahaïs, car les jeunes enfants doivent être avertis en leur âme et en leur cœur que bahaï n'est pas seulement un nom, mais une vérité. Chaque enfant doit être formé aux choses de l'esprit, afin qu'il incarne toutes les vertus et devienne une source de gloire pour la cause de Dieu. Sinon, le simple mot « bahaï », s'il ne porte pas ses fruits, demeurera stérile. Efforce-toi donc, au mieux de tes capacités, de faire comprendre à ses enfants qu'un bahaï, c'est un être qui incarne toutes les perfections, qui doit briller tel un cierge allumé et non demeurer dans l'obscurité tout en portant le nom de bahaï. Confère à cette école le nom de Baha'i Sunday School, école Baha'i du dimanche. Nota, classe d'enfants Baha'i à Kenosha, dans le Wisconsin. Chapitre 124. L'école du dimanche, où sont récitées les tablettes et les enseignements de Baha'u'llah, ainsi que la parole de Dieu, est en vérité une institution bénie. Tu dois certes poursuivre sans relâche cette activité organisée et y attacher toute l'importance qu'elle mérite, afin qu'elle se développe jour après jour, encouragée par le souffle du Saint-Esprit. si cette activité est organisée de manière efficace, sois assuré qu'elle donnera de magnifiques résultats. De la fermeté et de la constance sont toutefois nécessaires, faute de quoi cette œuvre se poursuivra quelque temps encore, puis elle tombera progressivement dans l'oubli. La persévérance est une condition essentielle. Dans la réalisation de chaque projet, constance et fermeté conduiront sans nul doute à l'obtention de résultats satisfaisants. Sinon, le projet sera interrompu après quelques jours. Chapitre 125. Les enseignements ne devraient pas être trop fréquemment changés et leur remplacement trop longtemps différé. Il est préférable d'user de modération. Il n'est pas souhaitable que vous teniez vos réunions à l'heure où d'autres églises célèbrent leur culte. Une telle pratique conduirait à une aliénation puisque les enfants bahaïs, qui suivent leur propre enseignement religieux du dimanche, s'en trouveraient privés s'ils tentaient de fréquenter d'autres écoles dominicales. En outre, l'admission d'enfants dont les parents ne sont pas bahaïs à l'école pour enfants bahaïs peut être autorisée. Et si dans cette école sont enseignés aux enfants les principes fondamentaux qui sont à la base de toutes les religions, il ne peut y avoir là aucun mal. Vu le nombre restreint des enfants bahaïs, il est impossible d'organiser plusieurs classes, et naturellement, une seule suffit. Quant à la dernière question concernant les différences qui séparent les enfants, agissez comme vous le jugez souhaitable. Chapitre 126. J'ai bien reçu ta lettre. Dieu soit loué, elle m'apporte de bonnes nouvelles de ta santé et de ta sécurité, et m'apprend que tu t'apprêtes à entrer dans une école d'agronomie. C'est là une formation qui te convient parfaitement. Efforce-toi autant que tu le peux de bien posséder la science de l'agriculture, car selon les divins enseignements, l'acquisition des sciences et le perfectionnement des arts sont considérés comme des actes d'adoration. Lorsqu'un homme entreprend de toute son énergie l'acquisition d'une science ou le perfectionnement d'un art, c'est comme s'il adorait Dieu dans ses églises et ses temples. Ainsi, lorsque tu entres dans une école d'agronomie et que tu t'efforces d'acquérir la connaissance de cette branche de la science, tu accomplis nuit et jour des actes d'adoration, actes qui sont agréés au seuil du Tout-Puissant. Or, qu'y a-t-il de plus grand dans la munificence que de considérer la science comme un acte d'adoration et l'art comme un service à l'égard du royaume de Dieu? Chapitre 127. Ô toi, serviteur du seul vrai Dieu, dans cette dispensation universelle, les talents prodigieux que déploient les hommes sont reconnus comme des actes d'adoration de la beauté resplendissante. Quelle munificence et quelle bénédiction que les œuvres des hommes soient considérées comme des actes d'adoration. On croyait dans le passé que ces talents indiquaient l'ignorance, sinon une disgrâce empêchant l'homme de se rapprocher de Dieu. Considère à présent combien ces bienfaits infinis et ces abondantes faveurs ont transformé les feux de l'enfer en un paradis de béatitude et ont fait, d'un tas de poussière obscure, un lumineux jardin. Il incombe aux artisans du monde d'offrir à chaque instant, au seuil sacré, de multiples marques de gratitude et de vouer tous leurs efforts et leur application à l'exercice de leur profession, afin que ces efforts donnent naissance à une œuvre qui, aux yeux de tous les hommes, manifestera la plus grande beauté et la perfection même. Chapitre 128. J'ai bien reçu ta lettre, et j'espère que tu seras protégé et assisté par la providence du vrai Dieu, que tu seras toujours occupé à faire mention de ton Seigneur, et t'efforceras de mener à bien la tâche qui est la tienne sur le plan professionnel. Tu dois déployer de grands efforts afin que tes réalisations professionnelles ne puissent être égalées et que tu acquières la renommée dans ces régions, car le fait d'atteindre la perfection dans son métier, en cet âge de miséricorde, est considéré comme un acte d'adoration envers Dieu. Et tout en exerçant ta profession, tu peux te souvenir du vrai Dieu. Chapitre 129. Ô ami du Dieu pur et omnipotent, être pur et saint en toutes choses est un attribut de l'âme consacrée est une caractéristique nécessaire de l'esprit non asservi. La plus haute perfection est d'être sans tache et de se libérer de chacun de ses défauts. Une fois nettoyé et purifié à tous égards, on devient alors un foyer reflétant la lumière manifeste. Ce qui compte en premier dans le comportement d'un être humain, c'est la pureté, la propreté et l'indépendance de l'esprit. D'abord, le lit du cours d'eau doit être nettoyé, et ensuite les eaux douces des rivières pourront y pénétrer. Les yeux chastes jouissent de la vision béatifique du Seigneur et savent ce que signifie cette rencontre. Une conscience pure inhale les fragrances qui soufflent des roseraies de sa grâce. Un cœur poli comme un miroir reflétera la face avenante de la vérité. C'est pourquoi dans les Saintes Écritures, les conseils célestes sont comparés à l'eau. En effet, comme le dit le Coran, « Et nous faisons descendre du ciel de l'eau pure », voir Coran 25-50. Et l'Évangile, « Sauf s'il est baptisé de l'eau et de l'Esprit, un homme ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Ainsi est-il clair que les enseignements émanant de Dieu, voir Jean 3.5, sont des flots célestes déversant la grâce. Ce sont des ondées de miséricorde divine qui purifient le cœur humain. Ce que je veux dire, c'est que sous tous les aspects de la vie, la pureté et la sainteté, la propreté et la netteté exaltent la condition humaine et favorisent le développement de la réalité intime de l'homme. Même dans le monde matériel, la propreté incite à la spiritualité, comme il est dit clairement dans les écrits sacrés. Et la propreté corporelle, bien qu'elle soit une chose d'ordre physique, exerce néanmoins une puissante influence sur la vie de l'esprit. Elle est pareille à une voix merveilleusement douce ou à une mélodie. Même si les sons ne sont que vibrations dans l'air affectant le nerf acoustique, et que ces vibrations ne sont elles-mêmes que des phénomènes fortuits transportés à travers l'atmosphère, voyez comme, malgré tout, elles nous remuent le cœur. Une belle mélodie, ce sont des ailes pour l'esprit, et l'âme en tressaille de joie. Ainsi, la propreté physique exerce également une action sur l'âme humaine. Voyez combien la propreté est agréable aux yeux de Dieu, et combien les prophètes le soulignent dans leurs saints livres. Les Écritures, en effet, interdisent de manger des aliments impurs ou de se servir d'objets sales. Certaines de ces interdictions revêtaient un caractère absolu, applicable à tous, et quiconque transgressait la loi était abhorré de Dieu et frappé d'anathème par les croyants. Il en était ainsi, par exemple, des choses catégoriquement interdites, et dont la perpétration était considérée comme un très grave péché. Certaines de ces actions étaient si répugnantes qu'il est même honteux de les nommer. Il est cependant d'autres choses interdites qui ne sont pas immédiatement nuisibles et dont les effets nocifs ne s'exercent que progressivement. Le Seigneur répugne également à de tels actes qui sont condamnables à ses yeux. Or, l'illégalité absolue de ces actes n'a toutefois pas été expressément formulée dans le texte sacré, mais il est nécessaire de les éviter afin de demeurer dans la pureté et la propreté, de préserver sa santé et d'être libéré de toute forme d'accoutumance. Parmi ces actes figure la consommation du tabac, une pratique sale, nauséabonde et nuisible, une habitude pernicieuse, et tous commencent à en percevoir la nocivité. Il a été établi par tous les médecins qualifiés, et des expériences ont démontré, que l'un des composants du tabac est un poison mortel, et que le fumeur est exposé à de nombreuses maladies diverses. C'est pourquoi l'usage du tabac a été clairement considéré comme une habitude répugnante sur le plan de l'hygiène. Le Bab, à l'orée de sa mission, formula explicitement l'interdiction du tabac, et tous les amis sans exception cessèrent alors de fumer. Or, à cette époque, comme il était permis de dissimuler ses convictions, et que toute personne s'abstenant de fumer était exposé aux persécutions et même à la mort, les amis fumaient afin de ne pas attirer l'attention sur leurs croyances. Plus tard fut révélé le Kitab Yagdas, livre le plus saint, et comme l'usage du tabac n'y était pas spécifiquement prohibé, les croyants n'abandonnèrent point cette habitude. La beauté bénie, cependant, exprima toujours sa répugnance à cet égard, et si dans les premiers temps il eut des raisons de fumer modérément, Il y renonça totalement par la suite, et les âmes sanctifiées qui suivaient son exemple, en toutes choses, abandonnèrent également l'usage du tabac. En d'autres termes, fumer du tabac est aux yeux de Dieu un acte répugnant, abhorré, et même si la nocivité en est progressive, il est extrêmement néfaste pour la santé de l'homme. C'est aussi une perte de temps et d'argent, qui fait du fumeur la proie d'une habitude malsaine. Tous ceux qui demeurent fermes dans l'Alliance condamnent donc cette habitude à la fois par raisonnement et par expérience. Le fait d'y renoncer apportera paix et sérénité à l'esprit de tous les hommes, leur permettant en outre de garder la laine fraîche, les doigts non maculés et les cheveux sans relents nauséabondes et répugnants. En recevant cette missive, les amis décideront certainement, par tous les moyens, d'abandonner cette habitude pernicieuse, même si cela doit prendre un certain temps. Tel est mon espoir. Quant à l'opium, c'est une drogue abominable et maudite. Que Dieu nous protège du châtiment qu'il inflige aux fumeurs d'opium. Conformément au texte explicite du livre le plus saint, l'opium est interdit et sa consommation est totalement condamnée. La raison même démontre que fumer de l'opium est un acte d'insanité, et l'expérience atteste que le fumeur d'opium est totalement coupé du royaume des hommes. Que Dieu nous protège tous contre la perpétration d'un acte aussi hideux, qui met en ruine la fondation même de ce qu'est un être humain, et condamne le drogué à la dépossession éternelle, car l'opium s'attache à l'âme de sorte que la conscience s'éteint, que l'esprit s'efface et que les perceptions s'émoussent. L'opium transforme l'être vivant en une créature de mort. Il détruit la chaleur naturelle. On ne saurait imaginer malheur plus grand que celui qu'inflige l'opium. Heureux ceux qui jamais n'en profèrent le nom. Alors, songez combien misérable est celui qui en fait usage. Ô vous, amoureux de Dieu, en ce cycle qui est celui de Dieu Tout-Puissant, la violence et la force, la contrainte et l'oppression sont condamnées sans exception. Il est toutefois indispensable que la consommation de l'opium soit évitée par tous les moyens disponibles, afin que la race humaine puisse être délivrée de ce fléau entre les fléaux. Si ce n'est pas le cas, malheur à quiconque faillit à son devoir envers son Seigneur. Ô divine Providence. Voir Coran 39, 57. Accorde en toute chose pureté et propreté aux adeptes de Baha. Fais qu'ils soient délivrés de toute souillure et de toute accoutumance à la drogue. Empêche-les de commettre un acte répugnant. Libère-les des chaînes que leur infligent les habitudes condamnables, afin qu'ils puissent vivre purs et libres, sains et nets, dignes de servir à ton seuil sacré et prêts à être rattachés à leur Seigneur. Délivre-les de l'usage des boissons alcoolisées et du tabac. Sauve-les de cet opium qui conduit à la folie. Fais qu'ils jouissent des suaves arômes de sainteté, qu'ils s'abreuvent à la coupe mystique de l'amour céleste et qu'ils connaissent le ravissement de s'approcher toujours davantage du royaume du Très-Glorieux. Car tu as dit, tout ce que tu possèdes dans ton cellier n'apaisera pas la soif de mon amour. Apporte-moi, ô échanson, une coupe pleine comme la mer du vin de l'Esprit. Ô vous, bien-aimés de Dieu, l'expérience a montré à quel point l'abandon du tabac, des boissons alcoolisées et de l'opium contribue à redonner santé et vigueur, vivacité d'esprit et force corporelle. Il existe aujourd'hui une communauté qui évite rigoureusement l'usage du tabac, de l'alcool et de l'opium. Or, cette communauté est de très loin supérieure aux autres sur le plan de la force et du courage physique, de la santé, de la beauté et de l'attrait. Un seul de ces hommes peut résister à 10 hommes d'une autre tribu. Et ceci a été prouvé pour la communauté tout entière, c'est-à-dire que chaque individu de cette communauté est, à tous égards, supérieur aux individus d'autres communautés. Nota, les Sikhs. Ainsi, faites un puissant effort afin que la pureté et la sainteté, qui sont par-dessus tout chéries par Abdu'l-Bahá, distinguent le peuple de Baha. Que dans chaque genre de perfection, le peuple de Dieu surpasse tous les autres humains, que par leur aspect et dans leur être intime, ils s'avèrent supérieurs à tout le reste, que sur le plan de la pureté, du raffinement et de la préservation de la santé, ils soient des pionniers, à l'avant-garde de ceux qui savent et par leur délivrance de toute forme d'esclavage, par leur connaissance, leur maîtrise de soi, qu'ils soient les premiers parmi les êtres purs, libres et sages. Chapitre 130. Ô toi, médecin distingué, grâce à Dieu, tu possèdes deux pouvoirs, l'un d'entreprendre la guérison physique et l'autre d'apporter la guérison spirituelle. Tout ce qui se rapporte à l'esprit de l'homme exerce un puissant effet sur sa condition physique. Ainsi, par exemple, tu devrais rendre ton patient heureux, lui apporter réconfort et joie, extase et exultation. Très souvent, il s'est fait qu'un prompt rétablissement en a résulté. Ainsi, pour traiter les malades, utilise tes deux pouvoirs. La sensibilité spirituelle exerce un effet surprenant sur la guérison des affections nerveuses. Chapitre 131. Lorsque tu appliques un traitement médical, tourne-toi vers la beauté bénie, et ensuite écoute la voix de ton cœur. Traite les malades par la joie céleste et l'exultation spirituelle. Soigne les grands affligés en leur transmettant la bonne nouvelle, et guéris les blessés grâce à ces éclatants bienfaits. Lorsque tu te trouves au chevet d'un patient, réjouis son cœur, et conquiers son esprit à l'aide du pouvoir céleste. En vérité, un tel souffle divin reforme tout os réduit en poussière et revivifie l'esprit de chaque créature souffrante. Chapitre 132. Bien que la maladie soit l'une des conditions inéluctables de l'homme, elle est certes pénible à supporter. Une bonne santé est le plus précieux de tous les dons. Chapitre 133. Il existe deux moyens de guérir les malades, le moyen matériel et le moyen spirituel. Le premier est celui du traitement médical. Le second consiste en des prières offertes à Dieu par les êtres spirituels qui se tournent vers lui. Les deux moyens doivent être utilisés et mis en pratique. Les maladies dues à des causes d'ordre physique doivent être traitées par des médecins à l'aide de remèdes médicaux. Celles qui sont dues à des causes d'ordre spirituel disparaissent à l'aide de moyens spirituels. Ainsi, une maladie causée par l'affliction, la crainte ou des impressions nerveuses sera plus efficacement guérie par un traitement spirituel plutôt que physique. C'est pourquoi ces deux formes de traitement doivent être appliquées. Elles ne sont nullement contradictoires. Tu devrais donc également accepter des remèdes physiques dans la mesure où ces derniers procèdent eux aussi de la miséricorde et de la faveur divine. Car Dieu a révélé et rendu manifeste la science médicale afin que ses serviteurs puissent bénéficier également de ce genre de traitement. Tu devrais attacher une attention égale aux traitements d'ordre spirituel, car ils produisent de merveilleux effets. À présent, si tu désires connaître le vrai remède qui guérira l'homme de toute forme de maladie et lui apportera la santé du divin royaume, sache que ce sont les préceptes et enseignements de Dieu. Concentre donc sur eux toute ton attention. Chapitre 134. Ô toi qui es attiré vers les fragrantes brises de Dieu, j'ai pris connaissance de ta lettre adressée à Madame Loua Gettinger. Tu as certes examiné avec grand soin les raisons pour lesquelles la maladie s'empare du corps humain. Il est certain que les péchés constituent une cause potentielle des affections physiques. Si l'humanité était délivrée des souillures du péché et de l'erreur, si elle vivait conformément à un équilibre naturel inné, sans aboutir là où la conduisent ses passions, il est indéniable que les maladies auraient cessé de prospérer et ne présenteraient plus une aussi grande diversité. L'homme a toutefois continué, dans sa perversité, à satisfaire ses appétits lubriques et ne se contente pas de nourriture simple. Il a plutôt préparé pour lui-même des aliments composés de nombreux ingrédients, de substances se différenciant l'une de l'autre. Ainsi, et par la perpétration d'actes vils et ignobles, son attention s'est trouvée accaparée, et il a abandonné la tempérance et la modération d'un mode de vie naturel, ce qui a eu pour conséquence l'apparition de maladies aussi violentes que diverses. Le corps de l'animal est composé des mêmes éléments que celui de l'homme. Étant donné toutefois que l'animal se contente de nourriture simple et ne s'efforce aucunement de donner libre cours à ses désirs inopportuns, et qu'il ne commet pas de péché, ces maladies sont moins nombreuses que celles de l'homme. Nous voyons donc clairement combien le péché et l'accoutumance constituent de puissants facteurs pathogènes. Et une fois créés, ces maladies se compliquent, se multiplient et se transmettent aux autres individus. Telles sont les causes spirituelles intimes de la maladie. Le facteur externe, physique, qui est à l'origine de la maladie, c'est une rupture de l'équilibre qui régnait jusque-là entre les divers éléments dont est composé le corps humain. Pour illustrer cette assertion, disons que le corps de l'homme est constitué de nombreuses substances, chacune présente à raison de la quantité prescrite et contribuant à l'équilibre essentiel de l'ensemble. Aussi longtemps que ces éléments constituants conservent leur proportion exacte, conformément à l'équilibre naturel global, c'est-à-dire tant qu'aucun des divers composants ne subit d'altération dans son volume et son équilibre proportionnel, il n'existe aucune raison d'ordre physique à l'apparition de la maladie. Prenons un exemple. L'amidon doit être présent dans le corps humain, pour une quantité déterminée, et c'est également le cas pour le sucre. Tant que chacune de ces substances conserve sa proportion naturelle par rapport à l'ensemble, il n'y aura pas de motif au déclenchement d'un état pathologique. Lorsque toutefois, ces éléments constituants varient quant à leur quantité et leur proportion respectives, c'est-à-dire lorsqu'ils s'accroissent ou se réduisent, il est certain qu'il devra en résulter une infiltration de la maladie. Or, ce problème mérite d'être étudié avec la plus grande attention. Le Bab a dit que les adeptes de Baha doivent développer la science médicale pour atteindre un niveau si élevé qu'ils seront capables de guérir les maladies par l'alimentation. La raison fondamentale en est que s'il doit se produire un déséquilibre dans l'une des substances composant le corps humain, altérant sa proportion correcte par rapport à l'ensemble, ce fait aura inéluctablement pour résultat l'apparition de la maladie. Si, par exemple, le taux d'amidon s'accroît et que le taux de glucose, le sucre, diminue à l'excès, la maladie aura le dessus. C'est la tâche d'un médecin averti de déterminer lequel des éléments constitutifs du corps de son patient a subi une diminution et lequel, en revanche, a été l'objet d'une augmentation. Une fois qu'il a pu établir ces données, il doit prescrire une alimentation contenant, en quantité notable, l'élément qui fait défaut, afin de restaurer l'équilibre essentiel du corps. Le malade sera délivré de la maladie lorsque sa constitution aura retrouvé son équilibre. La preuve en est que si les autres animaux n'ont jamais étudié la science médicale ni effectué de recherches sur les maladies ou les remèdes, les traitements ou les cures, pourtant, lorsque l'un d'eux devient la proie de la maladie, la nature le guide à travers les champs ou les endroits déserts vers la plante même qui, une fois consommée par l'animal, le délivrera de sa maladie. À titre d'explication, disons que si, par exemple, le taux de glucose a diminué chez un animal, ce dernier recherche, selon une loi naturelle, une plante riche en sucre. Alors, par ce besoin naturel qu'est l'appétit, l'animal découvrira et consommera, parmi 1000 espèces différentes, la plante qui contient en grande quantité un élément glucidique. Ainsi se trouve rétabli l'équilibre essentiel des substances composant son corps, et l'animal est délivré de la maladie. Ce problème mérite d'être examiné avec la plus grande attention. Lorsque d'éminents médecins l'étudieront de manière approfondie avec persévérance, il deviendra évident que l'apparition de la maladie est due à une altération des proportions respectives des diverses substances composant le corps, que le traitement consiste à ajuster ces quantités relatives et, enfin, que ce traitement peut être appliqué au niveau de l'alimentation. Il est certain qu'en cet âge nouveau et prodigieux, le développement de la science médicale permettra aux praticiens de guérir les malades à l'aide de produits alimentaires. Les 5 sens de la vue, de l'ouïe, du goût, de l'odorat et du toucher sont tous des facultés discriminatives ayant pour but de distinguer les éléments bénéfiques de ceux qui sont nuisibles. Ainsi est-il possible que le sens humain de l'odorat, qui différencie les odeurs, identifie une odeur comme répugnante alors même que cette odeur est bénéfique au corps humain. Ce serait absurde, c'est impossible. De même, le corps humain pourrait-il, grâce à son sens de la vue, le sens qui différencie les choses visibles, tirer profit de la vue d'une masse d'excréments repoussante? Jamais. Ainsi encore, lorsque le sens du goût, une faculté qui permet de choisir et de rejeter, est repoussé par quelque chose, cette chose n'est certainement pas bénéfique. Et si au début elle peut présenter quelque avantage, à la longue sa nocivité sera démontrée. De la même manière, lorsque la constitution d'un être est en équilibre, il ne fait aucun doute que tout ce qu'il mange de bon appétit sera bénéfique à sa santé. Observez la façon dont un animal paît dans un champ où poussent quelques 100 000 herbes différentes. Et comme, à l'aide de son odorat, il hume les odeurs des plantes et les goûte grâce à son sens du goût. Ensuite, il consomme toutes les herbes qui conviennent à ses sens et en retire un bénéfice. Sans ce pouvoir sélectif, les animaux mourraient en l'espace d'un seul jour, car il existe de multiples plantes vénéneuses et les animaux, certes, ignorent tout de la pharmacopée. Et pourtant, observe comme il possède une série de balances naturelles très fiables, grâce auxquelles il distingue ce qui est bon de ce qui est nuisible. Si l'un des éléments constitutifs de leur corps a diminué, ils peuvent rétablir l'équilibre en recherchant et consommant telle ou telle plante qui renferme en quantité abondante cet élément qui leur fait défaut. Ainsi se trouve rétabli l'équilibre entre les divers éléments de leur corps, et ils sont guéris de leur maladie. Le jour où des médecins hautement qualifiés auront réalisé la guérison des maladies par l'alimentation et prévu des nourritures simples, interdisant à l'humanité de s'asservir à ses appétits lubriques, il est certain que l'incidence des affections chroniques et de leur diversification diminuera et qu'ainsi l'état de santé de toute l'humanité s'en trouvera très amélioré. Or, ceci est destiné à se réaliser. De la même manière, des modifications seront apportées sur le plan universel au caractère, à la conduite et aux mœurs des hommes. Chapitre 135. Conformément au décret explicite de Baha'u'llah, nul ne doit se détourner de l'avis d'un médecin compétent. Il est impératif d'en consulter un, même si le malade lui-même est un praticien éminent et renommé. En bref, il s'agit pour vous de préserver votre santé en consultant un médecin hautement qualifié. Chapitre 136. Il incombe à chacun de rechercher un traitement médical et de suivre les prescriptions du praticien, car ceci est conforme au décret divin, mais en réalité, celui qui accorde la guérison, c'est Dieu. Chapitre 137. Ô toi qui énonces les louanges de ton Seigneur, j'ai lu ta lettre, dans laquelle tu exprimes l'étonnement que t'inspirent certaines des lois de Dieu, telles que celles qui concernent la chasse aux animaux innocents, ces créatures qui ne sont coupables d'aucun méfait. Tu ne dois pas en être surpris. Réfléchis aux réalités intimes de l'univers, aux raisons secrètes impliquées, aux énigmes, aux corrélations, aux règles qui régissent toutes choses. Chaque partie de l'univers, en effet, est reliée à chacune des autres parties par des liens très puissants, qui ne souffrent aucun déséquilibre ni relâchement d'aucune sorte. Dans le monde physique de la création, toutes les choses mangent et sont mangées à la fois. La plante s'abreuve au minéral. L'animal consomme la plante. L'homme se nourrit de l'animal et le minéral dévore le corps humain. Les corps physiques sont transférés d'une barrière à l'autre, d'une vie à une autre, et tout est soumis aux altérations et aux transformations. Tout, sauf l'essence de l'existence elle-même, car elle est constante et immuable. Et c'est sur elle que se fonde la vie de chaque espèce, de chaque réalité contingente à travers la création tout entière. Chaque fois que tu observeras, à l'aide d'un microscope, l'eau que l'homme boit, l'air qu'il respire, tu constateras qu'à chaque insufflation d'air, l'homme absorbe une grande quantité de vie animale et qu'avec chaque gorgée d'eau, il avale également une grande variété d'animaux. Comment pourrait-on jamais mettre un terme à ce processus? Toutes les créatures, en effet, mangent et sont mangées. Et la structure même de la vie est érigée sur cette réalité. S'il en était autrement, les liens qui s'entrelacent en toutes choses créées à l'intérieur de l'univers se trouveraient dénoués. En outre, chaque fois qu'une chose est détruite, qu'elle pourrit et qu'elle est privée de vie, elle est promue à un monde plus grand que celui qu'elle a connu antérieurement. Elle quitte par exemple la vie minérale et progresse vers la vie végétale. Puis elle abandonne celle-ci et accède à la vie animale, après quoi elle abandonne cette dernière et accède au royaume de la vie humaine, et ceci s'accomplit par la grâce de ton Seigneur, le miséricordieux, le compatissant. Je prie Dieu de t'aider à saisir les mystères qui résident au cœur même de la création, et d'écarter le voile qui masque ton regard et celui de ta sœur, afin que te soit révélé le secret bien gardé et le mystère caché, aussi clairement que le soleil de midi. Je prie Dieu d'aider ta sœur et ton mari à entrer dans le céleste royaume et de te guérir de tous les maux, d'ordre physique ou spirituel, qui nous assaillent en cette vie. Chapitre 138. Ô vous, bien-aimés du Seigneur, le royaume de Dieu est fondé sur l'équité et la justice, et aussi sur la miséricorde, la compassion et la bonté envers chaque âme vivante. Efforcez-vous donc de tout votre cœur de traiter avec compassion tous les êtres humains, à l'exception de ceux qui nourrissent des ambitions égoïstes, personnelles, ou qui sont atteints de quelque maladie de l'âme. Nous ne pouvons manifester de la bonté à l'égard du tyran, du traître ou du voleur, car loin de les éveiller à leurs fautes, nous les inciterions à demeurer dans leurs desseins pervers. Vous aurez beau manifester de la bonté envers le menteur, il n'en continuera pas moins à mentir de plus belle, car il croira vous avoir abusé alors que vous ne le comprenez que trop bien et que votre silence n'est motivé que par votre extrême compassion. En résumé, ce n'est pas seulement leurs semblables que les bien-aimés de Dieu doivent traiter avec miséricorde et compassion. Leur bienveillance doit se manifester à l'égard de chaque créature vivante, car sur le plan physique, et là où intervient l'esprit animal, les animaux et l'homme partagent les mêmes sentiments. Or, l'homme n'a pas saisi cette vérité, et croit que les sensations physiques sont réservées aux êtres humains, et c'est pourquoi il se montre injuste et cruel envers les animaux. Et pourtant, en vérité, quelle différence y a-t-il lorsqu'il est question de sensations physiques? Les sentiments sont identiques, que vous infligiez une douleur à un homme ou à une bête. Il n'y a là aucune différence, quelle qu'elle soit, et en fait, votre attitude est pire lorsque vous faites du tort à un animal, car l'homme dispose du langage, il peut se plaindre, crier et gémir s'il est attaqué. Il peut avoir recours aux autorités, et celles-ci le protégeront contre son agresseur. La bête, elle, est muette. Elle n'a la faculté ni d'exprimer sa douleur, ni de soumettre son cas aux autorités. Si un homme inflige 1000 maux à une bête, celle-ci ne peut ni l'écarter par la parole, ni le traîner devant les tribunaux. Il est donc essentiel que vous fassiez preuve de la plus grande considération pour les animaux et que vous soyez encore plus bienveillant envers eux qu'envers vos semblables. Formez vos enfants, dès le plus jeune âge, à se montrer tendres et aimants envers les animaux. Si un animal tombe malade, que les enfants s'efforcent de le guérir. S'il a faim, qu'il lui donne à manger. S'il a soif, qu'il le désaltère. Et s'il est épuisé, qu'il veille à lui procurer du repos. La plupart des êtres humains sont des pécheurs, alors que les bêtes sont innocentes. Celles qui sont pures de tout péché devraient, certes, bénéficier d'une bonté et d'un amour extrême. Toutes, à l'exception des animaux nuisibles, tels que les loups assoiffés de sang, les serpents vénéneux et autres créatures pernicieuses, car leur montrer de la bonté serait un acte injuste à l'égard des êtres humains et des autres animaux. Si, par exemple, vous vous montrez tendre à l'égard d'un loup, vous faites preuve de tyrannie envers un mouton, car le loup détruira tout un troupeau de moutons. Un chien enragé peut, s'il en a l'occasion, tuer un millier d'hommes et d'animaux. Ainsi, montrer de la compassion envers des bêtes sauvages et enragées, c'est faire preuve de cruauté envers les animaux paisibles. Il faut donc agir en conséquence avec les animaux nuisibles, mais se montrer bon et doux avec les animaux bénis. La tendresse et la bonté d'âme sont des principes fondamentaux du céleste royaume de Dieu. Vous devriez garder ceci soigneusement en mémoire. Chapitre 139. Ô toi, servante de Dieu, la bonne nouvelle qui émane du ciel doit être transmise avec la plus extrême dignité et la plus grande magnanimité, et tant qu'une âme n'a pas acquis les qualités essentielles au porteur de ce message, ses paroles resteront sans effet. Ô esclave de Dieu, l'esprit humain est doté de pouvoirs prodigieux, mais il doit être raffermi par le Saint-Esprit. Tout ce qui dévie de cette vérité n'est que pure imagination. Si toutefois l'esprit humain est assisté par la munificence de l'Esprit Saint, alors sa force sera digne d'émerveillement, alors cet esprit humain mettra en évidence des réalités et dévoilera des mystères. Tourne pleinement ton cœur vers le Saint-Esprit et convie tes semblables à suivre ton exemple. Alors tu seras le témoin de prodigieux résultats. Ô servante de Dieu, les étoiles du ciel n'exercent aucune influence spirituelle sur ce monde de poussière. Mais les éléments et parties de l'univers sont tous très solidement reliés les uns aux autres dans cet espace illimité. Et de cette interconnexion naît une réciprocité des faits matériels. En dehors de la munificence du Saint-Esprit, tout ce que tu peux entendre à propos de l'effet de transe des médiums et de leurs trompettes appelant les voix chantantes des trépassés, tout cela n'est qu'imagination pure et simple. Quant à la munificence de l'Esprit-Saint, tu peux en parler à ton aise, car elle ne saurait être surestimée. Crois par conséquent tout ce que l'on peut te révéler à ce sujet. Mais les personnes que je viens de citer, les sonneurs de trompettes, sont totalement privées de cette munificence et n'en récoltent nul fruit. Leur démarche est une chimère. Ô servante de Dieu, les prières sont exaucées à travers les manifestations universelles de Dieu. Néanmoins, lorsque l'intention est d'obtenir des choses matérielles, et même lorsqu'il s'agit de créatures indifférentes, si elle supplie Dieu, implorant son aide, même cette prière-là portera. Ô servante de Dieu, bien que la réalité de la divinité soit sanctifiée et illimitée, les buts et les nécessités des créatures sont restreintes. La grâce de Dieu est comme la pluie qui descend du ciel. L'eau n'est pas cernée par des limitations de forme, et cependant, partout où elle se déverse, elle acquiert des limitations, dimensions apparentes, formes, selon les caractéristiques locales. Dans un étang carré, l'eau, antérieurement informe, devient un carré. Dans un état hexagonal, elle devient un hexagone. Et dans un état octogonal, un octogone, et ainsi de suite. La pluie elle-même ne présente ni aspect géométrique, ni limite, ni forme, mais elle acquiert l'une ou l'autre caractéristique selon les limites de son contenant. De la même manière, l'essence sacrée du Seigneur Dieu est sans limite, incommensurable. Mais ses grâces et ses splendeurs deviennent limitées à l'intérieur des créatures, du fait de leurs limitations. C'est pourquoi les prières de certaines personnes seront exaucées dans certains cas. Ô servante de Dieu, il en est du Christ comme d'Adam. Le premier être humain qui exista sur cette terre avait-il un père ou une mère? Il est certain qu'il n'avait ni l'un ni l'autre, mais au Christ, il manquait seulement un père. Ô servante de Dieu, les prières révélées pour implorer la guérison s'appliquent aussi bien à la guérison physique qu'à la guérison spirituelle. Récite-les donc afin de guérir à la fois l'âme et le corps. Si la guérison est appropriée aux malades, elle sera certainement accordée. Mais pour certaines personnes souffrantes, la guérison ne serait que la cause d'autres maux, et par conséquent, la sagesse ne permet pas une réponse affirmative à la prière. Ô servante de Dieu, le pouvoir du Saint-Esprit guérit à la fois les maux physiques et spirituels. Ô servante de Dieu, il est consigné dans la Torah le verset suivant, « Et je vous donnerai la vallée d'Accor pour une porte d'espérance. » Cette vallée d'Accor est la cité d'Aca. Et quiconque a interprété ce verset différemment est de ceux qui ne savent pas. Chapitre 140. Tu m'as interrogé au sujet de la transfiguration de Jésus avec Moïse, Élie et le Père Céleste sur le mont Tabor, telle qu'elle est mentionnée dans la Bible. Les disciples perçurent cet événement grâce à leur œil spirituel. C'est pourquoi ce fut un secret bien gardé et une découverte spirituelle de leur part. Autrement, si l'on veut dire qu'ils furent témoins de formes physiques, c'est-à-dire qu'ils furent les spectateurs de cette transfiguration à l'aide de leur vision extérieure, alors disons, il y avait beaucoup d'autres personnes dans cette plaine et sur cette montagne. Et pourquoi omirent-elles de contempler ce spectacle? Et pourquoi le Seigneur ordonna-t-il à ses disciples de ne rien révéler à quiconque? Il est clair qu'il s'est agi d'une vision spirituelle et d'une scène du royaume. C'est pourquoi le Messie les pria de garder le secret jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Voir Matthieu 17, 1, 19, Marc 9, 2, 9, Luc 9, 28, 36. C'est-à-dire jusqu'à ce que soit exaltée la cause de Dieu, que règne la parole de Dieu et que se manifeste la réalité du Christ. Chapitre 141. Ô toi, flamme ardente, qui brûle de l'amour de Dieu. J'ai lu ta lettre et son contenu, rédigé de façon élégante et éloquente, a réjoui mon cœur, car il témoigne de ta profonde sincérité dans la cause de Dieu, de tes efforts soutenus le long du chemin de son royaume et de ta fermeté dans sa foi. C'est là, en effet, de toutes les grandes choses, la plus grande à ses yeux. Combien d'âmes se sont tournées vers le Seigneur, sont entrées dans l'ombre protectrice de sa parole et sont devenues célèbres à travers le monde. Ainsi, par exemple, Judas Iscariote. Puis, lorsque les épreuves se firent plus implacables et que leur violence s'intensifia, leurs pieds glissèrent sur le chemin et ils se détournèrent de la foi. Après avoir reconnu sa vérité, ils la renièrent et abandonnèrent l'harmonie et l'amour pour sombrer dans le mal et dans la haine. Ainsi s'est manifesté le pouvoir des épreuves, capable de faire trembler et vaciller de puissantes colonnes. Judas Iscariote fut le plus grand des disciples, et il invita le peuple à rejoindre le Christ. Puis, il lui sembla que Jésus manifestait une considération croissante envers l'apôtre Pierre, et lorsque Jésus dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église », ces paroles adressées à Pierre, ce fait d'avoir distingué Pierre pour un honneur particulier, eurent un effet marquant sur l'apôtre et firent naître l'envie dans le cœur de Judas. C'est pourquoi ce dernier, qui autrefois s'était approché de Jésus, s'en détourna. Lui qui avait cru dans la foi, la renia, et son amour se changea en haine jusqu'à ce qu'il devienne une cause de la crucifixion de ce glorieux Seigneur, de cette splendeur manifeste. Tel est le fruit de l'envie, la principale raison pour laquelle des hommes se détournent du droit chemin. Il en fut ainsi dans le passé, il en sera de même au sein de cette grande cause. Mais peu importe, car c'est ainsi que naît la loyauté dans le cœur des autres hommes et que se lèvent les âmes qui ne vacillent point, qui sont fermes et immuables comme les montagnes dans leur amour pour la lumière manifeste. Transmets ce message aux servantes du miséricordieux. Lorsqu'une épreuve s'intensifie, elles doivent demeurer impassibles et fidèles à leur amour pour Baha. En hiver sévissent les tempêtes et soufflent les grands vents, puis vient le printemps dans toute sa beauté, parant les collines et les plaines de plantes odorantes et de rouges anémones, belles à contempler. Alors les oiseaux font entendre leurs chants joyeux, et du haut de leurs branchages témoignent par leur ramage de la splendeur du Très-Haut. Bientôt vous témoignerez que les lumières jaillissent, que les bannières du royaume d'en haut flottent au vent, que les suaves fragrances du très miséricordieux sont transportées au loin, que les armées du royaume descendent du ciel, que les anges célestes s'élancent et que le Saint-Esprit souffle sur toutes ces régions de la terre. Ce jour-là, tu verras les hésitants, hommes et femmes, frustrés de leurs espérances et manifestement désorientés. Tel est le décret du Seigneur, celui qui révèle les versets. Quant à toi, tu es béni, car tu es ferme dans la cause de Dieu, fidèle à son alliance. Je le prie de t'accorder une âme spirituelle et la vie du royaume, et de faire de toi une feuille verdoyante et florissante sur l'arbre de la vie, afin que tu puisses transmettre aux servantes du miséricordieux courage et spiritualité. Ton généreux Seigneur t'aidera à œuvrer dans sa vigne et fera de toi la source de propagation de l'esprit d'unité parmi ses servantes. Il fera en sorte que ton œil spirituel perçoive la lumière de la connaissance. Il pardonnera tes péchés et les transformera en bonnes actions. Il est en vérité le clément, le compatissant, le Seigneur de grâce incommensurable. Chapitre 142. Ô toi, chère servante de Dieu, loue Dieu, car il t'accueille à ton seuil sacré et te chérit dans le royaume de sa puissance. Tu es le chef d'une assemblée qui est l'empreinte même de l'assemblée divine, le reflet du très glorieux empire. Efforce-toi, cœur et âme, dans l'humilité, l'effacement et la prière, de faire observer la loi de Dieu et de répandre au loin ses subtils parfums. Efforce-toi de devenir la fidèle présidente des assemblées d'âmes spirituelles et une compagne pour les anges dans le royaume du très miséricordieux. Tu m'as interrogé sur les versets 10 à 17 du chapitre 21 de l'Apocalypse de Saint Jean le Divin. Sache que, selon des principes mathématiques, le firmament de l'astre du jour de cette terre a été divisé en 12 constellations, que l'on appelle les 12 signes du zodiaque. De la même manière, le soleil de vérité brille et déverse ses munificences à travers 12 états de sainteté. Et ces célestes signes représentent ces personnages immaculés qui sont les sources mêmes de sainteté et les aurores de la proclamation de l'unicité de Dieu. Considère comment, à l'époque de l'interlocuteur, Moïse, il y eut 12 êtres sacrés qui furent les chefs des 12 tribus. Et de même, dans la dispensation de l'Esprit, le Christ, note qu'il y eut 12 apôtres rassemblés à l'ombre protectrice de cette céleste lumière, et de ces aurores resplendissantes apparut le soleil de vérité, comme se lève le soleil dans le ciel. Ensuite, à l'époque de Mohammed, observe qu'il y eut 12 aurores de sainteté, les révélateurs de l'aide raffermissante de Dieu. De même, Saint Jean le Divin parle de 12 portes dans sa vision, et de 12 fondations. Le verset suivant, « Cette grande cité, Jérusalem la Sainte, descendant du ciel et de Dieu, désigne la loi sacrée de Dieu. Ceci est exposé dans de nombreuses tablettes et mentionné dans les écritures des prophètes du passé. Par exemple, cette Jérusalem a été vue s'enfonçant dans le désert. Le sens de ce passage est que cette Jérusalem céleste possède 12 portes, par lesquelles les êtres bénis pénètrent dans la cité de Dieu. Ces portes sont des âmes qui sont telles des guides, des portails de connaissance et de grâce, auprès desquels se tiennent 12 anges. L'ange représente le pouvoir des confirmations divines. Que la lampe du pouvoir de la confirmation divine brille dans le refuge de ces âmes, et signifie que chacun de ces êtres se verra accorder le soutien le plus inconditionnel et le plus affermissant. Ces 12 portes encerclent le monde tout entier. Autrement dit, elles sont un refuge pour toutes les créatures. Ces 12 portes sont aussi les fondations de la cité de Dieu, de la Jérusalem céleste, et chacune de ces fondations porte le nom d'un des apôtres du Christ. Autrement dit, chacun d'eux rend manifeste les perfections de cet être sacré, son message de joie et son excellence. En résumé, l'Écriture dit « Et celui qui me parlait avait une baguette en or, une règle à l'aide de laquelle il mesurait la cité, ses portes et ses tours. » Le sens de ce verset est que certains personnages guidaient le peuple à l'aide d'un bâton sorti de terre et les gardaient avec une baguette semblable à celle de Moïse. D'autres entraînaient et surveillaient le peuple à l'aide d'une baguette de fer, comme ce fut le cas dans la dispensation de Mohammed. Dans le présent cycle, comme il s'agit de la plus puissante des dispensations, la baguette sortie du royaume végétal et celle en fer seront transformées en une baguette faite de l'or le plus pur et tirée des trésors infinis du royaume du Seigneur. C'est grâce à cette baguette que le peuple sera formé. Observe bien la différence. Autrefois, les enseignements de Dieu étaient comme un bâton, et c'est par ce moyen que les saintes écritures furent répandues à travers le monde, que la loi de Dieu fut proclamée et sa foi établie sur la terre. Puis vint un temps où le bâton du fidèle berger fut comme du fer, et aujourd'hui, en cet âge nouveau et resplendissant, la baguette est pareille à de l'or pur. Combien grande est la différence ? Sache donc combien ont progressé la loi et les enseignements de Dieu en cette dispensation. Comment ils ont atteint de tels sommets qu'ils transcendent et de loin les dispensations antérieures. En vérité, cette baguette est de l'or le plus pur, alors que celle des temps passés était en fer et en bois. Ceci est une brève réponse rédigée à ton intention, car le temps me manquait pour m'étendre davantage. Tu m'en excuseras, j'en suis sûr. Les servantes de Dieu doivent s'élever et atteindre un niveau tel que, d'elles-mêmes et sans être assistées, elles saisissent ces significations profondes et soient capables d'en expliquer chaque mot, du début à la fin, un niveau où, du plus profond de leur cœur, jaillira une source de sagesse, pareille à la fontaine qui bondit de sa propre source originelle. Chapitre 143. Ô toi qui t'es approché de l'Esprit du Christ dans le royaume de Dieu. En vérité, le corps est composé d'éléments physiques, et chacun de ses composants doit obligatoirement se décomposer. L'esprit, toutefois, est une essence unique, fine et délicate, incorporelle, éternelle, et qui appartient à Dieu. C'est la raison pour laquelle quiconque cherche le Christ dans son corps physique à chercher vainement et sera séparé de lui comme par un voile. Mais quiconque aspire à le trouver en esprit progressera, jour après jour, dans la joie, le désir et l'amour ardent, toujours plus près de lui, le Christ lui paraissant en pleine lumière. En ce jour nouveau et prodigieux, il t'incombe de chercher l'Esprit du Christ. En vérité, le ciel vers lequel s'éleva le Messie n'était pas ce ciel sans fin, son ciel était plutôt le royaume de son Seigneur bienfaisant. Ainsi qu'il l'a dit lui-même, « Je suis descendu du ciel », voir Jean 6, 38. Et aussi, « Le Fils de l'homme est au ciel », voir Jean 3, 13. Ainsi, il est clair que son ciel est au-delà de tout point. Il embrasse toute existence et s'ouvre à ceux qui adorent Dieu. Prie et implore ton Seigneur de t'élever jusqu'à ce ciel et de te donner de cette nourriture en cet âge de majesté et de puissance. Sache que les hommes, jusqu'à ce jour, n'ont pas réussi à découvrir les secrets cachés du livre. Ils s'imaginent que le Christ fut exclu de son ciel à l'époque où il foulait notre terre, qu'il tomba des sommets de sa sublimité et plus tard, qu'il s'éleva vers ses couches supérieures du ciel, vers le paradis qui n'existe aucunement, car il n'y a là que l'espace. Et les hommes attendent qu'il en redescende à nouveau, monté sur un nuage, et ils imaginent qu'il y a des nuages dans cet espace infini, que le Christ voyagera sur ces nuages, et que de cette manière, il descendra sur la terre. La vérité, c'est qu'un nuage n'est que vapeur qui s'élève de la terre, et qu'il ne descend pas du ciel. Le nuage dont parle l'Évangile, c'est le corps humain, ainsi nommé parce que le corps est pour l'homme comme un voile qui, tout comme un nuage, l'empêche de contempler le soleil de vérité qui brille à l'horizon du Christ. Je prie Dieu que les portes des découvertes et des perceptions s'ouvrent devant tes yeux, afin que tu puisses être informé de ces mystères en ce jour manifeste entre tous. Je désire vivement te rencontrer, mais les temps ne sont pas propices. Si Dieu le veut, nous t'informerons d'une période plus favorable où tu pourras venir dans la joie.